Radio Okapi.
Journal présenté par Noëlla Luzitukabambi.
Arrivé hier soir à Kinshasa, le procureur de la Cour pénale internationale réaffirme l'engagement de son bureau à enquêter sur les crimes commis dans l'est de la RDC. Karim Khan devra rencontrer quelques représentants du gouvernement, la chef de la MONUSCO et des membres de la société civile. Identifier les bonnes pratiques et les défis liés à l'intégration des droits humains dans les opérations policières au quotidien, c'est le but de l'atelier de formation débuté hier à Kinshasa à l'intention de plus de 70 inspecteurs de l'Inspection générale de la police nationale congolaise et commandants des grandes unités du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est l'invité de ce journal. Jacquemain Chabani va s'exprimer sur les questions sécuritaires dans l'est de la RDC. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan est arrivé hier lundi soir en RDC. Il réaffirme l'engagement de son bureau à enquêter sur les crimes commis dans l'est du pays. Karim Khan met en garde les groupes armés, mais aussi les forces armées contre les crimes commis en RDC et promet que la loi sera appliquée. Suivez Karim Khan dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
But of course, like the rest of the world, we are extremely worried in Congo.
Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très très inquiétante. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers blessés. Et le message doit absolument passer clairement. Tout groupe armé, toutes forces armées, tous les alliés des groupes armés et des forces armées, ils n'ont pas un chèque à blanc. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. Et je suis très clair là-dessus, la loi doit être effective. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Personne ne peut attaquer les civils, blesser les gens, tuer les gens. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Les populations de la République démocratique du Congo sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde.
L'Union européenne, quant à elle, annonce une série de mesures en réaction à l'implication de troupes rwandaises aux côtés du M23 dans l'est de la RDC. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, annonce notamment la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali, la possibilité d'appliquer des sanctions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, l'appel au retrait des forces rwandaises et le réexamen du protocole d'accord sur les matières premières critiques. Je vous propose écoutez Kaja Kallas dans cet extrait sélectionné par Poly Mouzalia.
La situation est très grave et risque de dégénérer en conflit régional. L'intégrité territoriale n'est pas négociable en RDC tout comme en Ukraine. La charte des Nations Unies s'applique de la même manière partout. C'est pourquoi nous soutenons le processus de paix de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à des résultats par des moyens diplomatiques. Mais nous prenons également plusieurs mesures. Ainsi, tout d'abord, les consultations sur les questions de défense avec le Rwanda ont été suspendues. Il y a également une décision politique d'appliquer des sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Nous avons demandé au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la RDC. Enfin, le protocole d'accord avec le Rwanda concernant les matières premières critiques sera réexaminé.
Will be under a review.
Le Royaume-Uni annonce, lui, une augmentation de son soutien humanitaire à la RDC. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères britannique, David Lammy, vient de terminer une visite en RDC et au Rwanda pour promouvoir une solution politique pacifique au conflit dans l'est de la RDC. Christian Mapendano.
David Lammy s'est entretenu vendredi soir avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le samedi avec le président rwandais, Paul Kagame, au sujet de la situation actuelle dans l'est de la RDC. Il a encouragé les deux dirigeants à convenir d'un cessez-le-feu immédiat et à trouver une solution politique durable au conflit. Dans une vidéo publiée sur son compte X, M. Lammy a réitéré la position du gouvernement britannique. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Au cours de la visite, le secrétaire d'État a annoncé que le Royaume-Uni augmenterait son aide humanitaire à la RDC de 14,6 millions de livres, en plus des 62 millions de livres déjà alloués cette année pour soutenir les personnes affectées par les conflits dans l'est du pays. Cette augmentation de l'aide humanitaire permettra de fournir des services alimentaires, en eau et en santé à 480 000 personnes supplémentaires et contribuer également au soutien des hôpitaux en RDC qui prennent en charge les cas de violences sexuelles.
Ici au pays, à Uvira, au cours des derniers jours, la situation sécuritaire autour de cette ville du Sud Kivu s'est rapidement détériorée, atteignant un point critique depuis le 15 février. Les habitants décrivent des scènes de pillage, des cas de violence accrues et des affrontements au sein de la ville entre les forces de l'armée congolaise FRDC et les combattants Wazalendo. C'est ce qu'indique Médecins sans frontières dans un communiqué publié hier. Les structures médicales n'ont pas été épargnées par les tirs impactant la prise en charge des patients. Emmanuel Elameji nous propose un condensé de ce communiqué.
Dès le 17 février, les hôpitaux de la région ont fait face à un afflux de blessés, recevant chaque jour une dizaine de personnes, dont des civils, dans chaque structure. Malgré l'insécurité, le personnel du ministère de la Santé continue d'apporter des soins d'urgence à la population et une grande partie du personnel d'autres services sont venus aider en renfort au niveau de la chirurgie et du bloc. Au total, plus d'une centaine de blessés a déjà été pris en charge en quelques jours. Le chaos en ville et les tirs incessants ont fortement impacter la circulation et les mouvements de la population. Ce manque de mobilité empêche même les secours d'intervenir à temps. Les ambulances ont beaucoup de mal à circuler et dès qu'elles peuvent, elles continuent de ramasser des corps sans vie. À plusieurs reprises, l'hôpital général de référence à Uvira s'est retrouvé pris sous des tirs croisés, mettant gravement en danger les patients et le personnel. Avant-hier, par exemple, les activités médicales ont à nouveau dû être interrompues et les patients ont dû se mettre à l'abri pour éviter d'être touchés. Des hommes armés ont également pénétré dans les locaux de l'hôpital, se déplaçant et tirant à l'intérieur.
Pendant ce temps, à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu, la présence des militaires des FRDC venant des lignes de front dans le territoire de Lubero inquiète la population. Le bourgmestre adjoint de cette commune rurale affirme qu'il ne se passe pas une nuit sans que de coups de feu ne soient entendus dans des quartiers où les cas d'extorsion et des vols en main armée sont devenus fréquents. Craignant que cela n'impacte négativement la cohabitation entre civils et militaires, Jean de Dieu Kambale Kibwana demande à la police militaire de faire son travail. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Depuis la soirée de dimanche jusqu'aux heures matinales de ce lundi, on a enregistré un mouvement de déplacement de nos compatriotes en provenance de Kavinyonge et ses environs, fuyant ces désagréments. Certains ont été répertoriés par les comités locaux de déplacés et d'autres ont été directement accueillis dans des familles d'accueil. Nous estimons qu'il est inacceptable que les hommes censés servir les pays sous les drapeaux en protégeant l'intégrité territoriale et en défendant la souveraineté nationale soient les premiers à troubler l'ordre public et occasionner une psychose généralisée au sein de la population. Nous appelons les autorités politico-administratives et militaro-policières de l'état de siège de mener dans l'urgence une enquête minutieuse afin que les coupables soient punis conformément aux dispositions de la justice militaire. Et au finish, nous appelons la population au calme et à ne pas se fier aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce sont des informations qui sont préalablement fabriquées dans les laboratoires de l'ennemi de la paix.
Hier, au 24 février, l'accord cadre d'Addis Abeba, qui vise à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération à RDC dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains, a eu 12 ans. À cette occasion, le mécanisme national de suivi de l'accord, MNS, exprime sa profonde consternation face à la recrudescence de la violence dans l'est du pays. Dans une déclaration hier, il déplore l'occupation de Goma et de Bukavu par le M23 soutenu par le Rwanda, un fait qui ternit cet accord de l'espoir. Les détails avec Martial Papimukeba.
Le mécanisme national de suivi dénonce des crimes graves dans les zones sous occupation du M23 soutenues par les Rwandais. Massacres, exécutions sommaires, enrôlement forcé d'enfants, viols, y compris sur des enfants à bas âge et actes de génocide contre des groupes ethniques congolais spécifiques. Il s'allie la résolution 2773 par le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit accélérer les efforts pour rétablir la paix en RDC. Les MNS appellent les garants de l'accord cadre a convoqué d'urgence la quadripartite, SADC, CIRGL, EAC, CEAC et un sommet du mécanisme régional de suivi pour évaluer les respects des engagements et envisager des sanctions contre les contrevenants. Il recommande à la MONUSCO d'utiliser sa brigade d'intervention si les groupes armés refusent de se retirer et encourage la RDC à exercer son droit légitime à la défense si nécessaire. Les MNS appellent en fait les Rwandais à reprendre de bonne foi le processus de Luanda et les M23 à se soumettre au cadre du processus de Nairobi.
Plus de 70 inspecteurs de l'Inspection générale de la police nationale congolaise et commandants des grandes unités du commissariat provincial de la police de Kinshasa s'exercent à identifier les bonnes pratiques et les défis liés à l'intégration des droits humains dans les opérations policières au quotidien. Cette formation se déroule dans le cadre d'un atelier qui s'est ouvert hier ici à Kinshasa. Il porte sur le rôle de l'Inspection générale de la PNC dans la promotion et la protection des droits de l'homme au sein des unités et services de la police. La finalité de cet atelier de 5 jours, appuyé par l'organisation Intelligent Global Consulting, est de ramener le travail des policiers au diapason du statut de la RDC comme membre du Conseil des droits humains de l'ONU. Billy Ivan Lutumba.
Le commandant de l'IGPNC, le commissaire divisionnaire principal Philemon Patience Mouchid, déclare que son idéal est de suivre le chemin tracé par son commandant suprême, celui d'amener réellement la RDC à un véritable état des droits, d'où la multiplication des séances de renforcement des capacités.
Nous devons renforcer la formation des agents sur les standards internationaux en matière de respect des droits fondamentaux, garantir un cadre de travail propice à une police républicaine et veiller sûrement à la mise en place des mécanismes de contrôle et des sanctions en cas d'abus. Que cette mission soit accomplie de manière efficace et légitime, elle doit impérativement et absolument s'appuyer sur le respect des droits humains.
Loin d'être un simple concept, interpelle le vice-ministre de l'Intérieur, la promotion des droits humains dans l'exercice de la fonction policière doit passer par des actions concrètes, notamment
un policier doit toujours agir dans le cadre légal, sans abus de pouvoir ni recours disproportionné à la force. Toute personne, quelle qu'elle soit, son infraction présumée, a droit à un traitement respectueux et équitable.
Signalons qu'à cette occasion, et compte tenu de la situation de crise dans le nord et sud Kivu, l'IGPNC Philemon Patience Mouchidi avait enjoint les participants et tout le corps de police à un sursaut patriotique, la bravo pour la défense de la patrie et à l'enrôlement de leurs dépendants dans les forces de défense et de sécurité.
Le Salon des bruits des villes africaines a ouvert ses portes hier lundi à Kinshasa sur l'initiative du collectif Malafi Arts. Selon les organisateurs, cet événement qui se tient du 24 février au 1er mars 2025 célèbre les sonorités urbaines africaines tout en abordant des enjeux cruciaux de la pollution sonore. Le Salon des bruits des villes africaines 2025 se distingue par son approche interdisciplinaire mêlant art, santé, public, technologie et environnement pour réfléchir à des solutions créatives face à la pollution sonore. Écoutez Nyamba Malafi, initiateur de ce festival, au micro de Ben Chokuta.
Aujourd'hui, c'était la conférence inaugurale de l'édition 2025 du Salon de bruit des villes africaines. Cet événement qui a commencé depuis 2019 et qui a été à sillonner dans plusieurs villes africaines. Aujourd'hui, on voulait revenir à Kinshasa, redonner des bases et monter une édition spéciale qui nous permet d'inviter aussi les autres villes de venir réfléchir et de proposer des pistes et des solutions concrètes pour lutter contre la nuisance sonore dans nos villes et permettre aussi aux habitants de Kinshasa de passer un moment festif. Parce qu'on le sait chez nous, dans notre culture, même quand il y a les deuils, on sait comment pleurer à travers la musique, à travers le son. Le son nous accompagne de la naissance à la mort. Et en ces moments où le pays traverse un moment difficile, on devait chanter les kansala pour se commémorer et pour se redonner des énergies positives.
Actualité internationale.
Plus de 2 mois et demi après la brève proclamation de la loi martiale en Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a entamé ce mardi la dernière audience du procès en destitution du président Yoon Suk-yeol avant de décider de son sort entre déchéance définitive et retour au pouvoir. Successivement suspendu par l'Assemblée nationale, une première pour un chef d'État en titre dans le pays, puis placé en détention, M. Yoon est parallèlement jugé depuis le 20 février par le tribunal central de Séoul pour insurrection, un crime passible de la peine de mort. Les 8 juges de la Cour constitutionnelle, eux, se retireront ce mardi pour délibérer. Il leur faudra choisir entre entériner la motion de destitution votée par le Parlement et ainsi démettre définitivement le dirigeant conservateur ou bien le rétablir dans ses fonctions.
L'invité
de ce journal est Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Il s'exprime sur les questions sécuritaires dans l'Est de la RDC. Jacquemain Chabani s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Messieurs les vice-premiers ministres, bonjour.
Bonjour, Radio Capis.
On a suivi sur les réseaux sociaux une vidéo qui appelle à s'attaquer aux Swahiliphones. Alors, quelle est votre réaction à ce message appelant à s'attaquer aux Baswahili?
Bon, d'abord, je dois vous informer vos auditeurs. Et les réseaux sociaux ne sont pas des sources officielles. Les réseaux sociaux aujourd'hui font l'objet de beaucoup de désinformations, ce qu'on appelle fake news. Il y a beaucoup d'émissions qui informent l'opinion sur les méfaits des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, avec la guerre d'agression et les territoires qui sont occupés par l'armée rwandaise, là où nos populations vivent le calvaire, nous sommes victimes de ces attaques de l'armée numérique du Rwanda qui veut diviser les Congolais entre eux. Je crois que nous tous, nous vivons dans ce pays depuis des années. Nous savons que nous sommes une nation unifiée avec la multitude de ces groupes ethniques. Cette question-là n'est pas une réalité en République démocratique du Congo, mais malheureusement, principalement à travers les réseaux sociaux, on veut faire croire que c'est une réalité. Je peux rassurer nos concitoyens qu'en termes de statistiques, au-delà des informations et vidéos qui circulent, d'ailleurs même des vieilles vidéos qu'on sort des fois de leur contexte, il n'y a pas de cas et de statistiques qui peuvent démontrer qu'il y a une quelconque crainte d'une difficulté des Swahiliphones vivant à Kinshasa ou en dehors de leur espace naturel. C'est un gros mensonge. J'ai eu au ministère de l'Intérieur à recevoir la communauté Banyamulenge. Nous avons échangé avec eux sur cette situation-là. Ils avaient effectivement 5 cas qui nous ont transmis et que nous avons suivis sur toute l'étendue de la République. J'ai reçu aussi le caucus des élus du Nord Kivu qui, sur base des messages relayés dans les réseaux sociaux, étaient venus partager avec le ministère de l'Intérieur. Nous les avons rassurés. Donc, les Swahili vivent par exemple dans la ville de Kinshasa, dans toutes les communes. Il n'y a que cette inquiétude d'une psychose qui veut être mise en place à travers les réseaux sociaux et c'est l'arme des ennemis de la République.
Dites-nous, messieurs les vice-premiers ministres, comment vous réagissez à ces informations relatives au recrutement forcé d'enfants, de femmes et de jeunes dans la rébellion?
Effectivement, le gouvernement de la République a signé un communiqué hier qui relevait toutes ces violations de droits de l'homme, toutes ces violations contre tout le dispositif, l'arsenal juridique international auquel la République démocratique a ratifié. Nous sommes en train de documenter tous ces actes d'exaction, de tuerie ciblée que sont en train de subir nos populations. Nous sommes convaincus que dans un avenir très proche, nous allons rétablir justice et les droits de toutes nos populations. Elles sont victimes de déplacements forcés, elles sont victimes de séquestration. Nous avons nos vaillants phares d'essai qui se retrouvent encore jusqu'à présent dans les enceintes de la MONUSCO, auxquelles le Rwanda et son supplétif M23 ne veulent pas appliquer les conventions internationales sur les hommes en uniforme qui ont déposé les armes. Ils sont séquestrés de même que le personnel des Nations Unies. Tout ça sont des violations très graves à charge du Rwanda de M. Paul.
Quelle démarche le gouvernement mène pour dénoncer toutes ces pratiques dont vous venez d'énumérer?
Nous avons un certain nombre de dispositifs. Actuellement, Son Excellence Madame la Première Ministre se retrouve à Genève où elle est allée dans des activités du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies pour présenter et défendre toutes ces violations dont est victime le peuple et la nation congolaise. Nous avons aussi un collectif d'avocats qui est en activité dans les différentes juridictions internationales. Donc ça, c'est sur le volet diplomatique.
Des policiers de Bukavu vous amenaient dans des centres à Goma pour une formation idéologique. Comment réagissez-vous à cela?
C'est une très grave violation des conventions de Genève relatives au traitement des prisonniers de grève. Voilà qu'un groupe de terroristes et un pays agresseur se permet de séquestrer, de kidnapper des citoyens, des hommes qui sont sous les drapeaux, en voulant les amener dans un camp de concentration pour les endoctriner idéologiquement en espérant pouvoir les retourner contre leur nation. C'est extrêmement grave. Nous sommes convaincus que toutes les pressions qui sont faites feront en sorte à ce que cette initiative soit un échec total.
Jacquemin Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, je vous dis merci beaucoup.
Je vous remercie.
Merci à vous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin. Un journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi et mis en onde par Billy Landry Betou sous la coordination et la supervision de Alain Irung Mushinji.